Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonsoir à toutes et tous. Changer le regard sur les étrangers qui arrivent en France. C'est le projet ambitieux d'Aurélien Taché, le député de La République En Marche, auteur du rapport sur l'intégration des immigrés. Un texte présenté aujourd'hui au gouvernement et qui sera en partie repris dans le projet de loi Asile et Immigration. La France doit-elle récupérer ses djihadistes arrêtés en Syrie et en Irak? La justice irakienne a réglé au moins un cas aujourd'hui. Elle a ordonné la libération et l'expulsion de Mélina Boujedir, une Française de 27 ans arrêtée à Mossoul pour appartenance à l'État islamique. Dans ce journal, nous parlerons aussi du gros contrat gazier passé entre Israël et l'Égypte, 15 milliards de dollars. Un accord historique pour Benjamin Netanyahou, ravi que l'on parle un peu moins de ses ennuis avec la justice. Ouvrir les bibliothèques le soir et le dimanche, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui doit se traduire en mesures concrètes dès demain. Nous en parlerons avec l'invitée de ce journal, la sénatrice Sylvie Robert, auteure d'un rapport sur les lieux de culture. Comment introduire en douceur un texte très controversé? À deux jours de la présentation du projet de loi Asile et Immigration, projet jugé trop répressif par la CIMAD, l'opposition de gauche, mais aussi certains élus de la majorité, le gouvernement a donc dévoilé aujourd'hui ce qu'il appelle le volet humaniste de cette loi. Un rapport pour faciliter l'intégration des étrangers. 72 propositions formulées par le député du Val-d'Oise Aurélien Taché, un rapporteur qui n'a pas été choisi par hasard, Antoine Maret.
Oui, Aurélien Taché, c'est un peu l'hémisphère gauche des marcheurs. Député anciennement socialiste, il s'est imposé comme un chef de file du pôle humaniste du parti d'Emmanuel Macron. Fervent défenseur du droit d'asile, il n'a pas hésité à plusieurs reprises à mettre en garde publiquement Gérard Collomb, partisan de la fermeté sur les questions d'immigration. Il espère donc que le gouvernement va s'inspirer du rapport sur lequel il a travaillé pendant 6 mois. 72 propositions ont été formulées aujourd'hui à l'exécutif, 2 jours avant la présentation au Conseil des ministres du projet de loi Asile et Immigration. Dès le préambule, le ton est donné. Il est temps d'assumer une véritable politique publique d'intégration ambitieuse et exigeante. Aurélien Taché déplore l'insuffisance du cadre donné à l'intégration. Il appelle à un changement des mentalités en positionnant l'État comme un investisseur social. Il préconise de doubler, voire de tripler le nombre d'heures de cours de français pour les étrangers arrivant en France, ainsi que l'ouverture de ces cours de français aux demandeurs d'asile avant la réponse sur leur accueil par la France. Par ailleurs, il envisage d'autoriser les demandeurs d'asile à travailler dans un délai de 6 mois après leur requête, contre 9 actuellement pour favoriser leur intégration. Il demande également une meilleure reconnaissance des diplômes étrangers. L'ensemble des mesures proposées par le député est estimé à 607 millions d'euros. Ces mesures ne sont pas contradictoires avec le texte qui sera présenté dans 2 jours. Le rapport Taché se demande essentiellement comment intégrer ceux que la France a décidé d'accueillir. Le projet de loi répondra plutôt à la question qui doit-on accueillir?
Et le gouvernement annonce ce soir qu'il reprendra les grands axes de ses propositions d'Aurélien Taché. Autre dossier sensible pour le gouvernement et qui n'a pas été facilité par un rapport, bien au contraire. 4 jours après la remise du rapport Spinetta, texte vécu comme une attaque par les cheminots, le gouvernement a lancé aujourd'hui les concertations sur la réforme de la SNCF. Édouard Philippe a rencontré les dirigeants de la compagnie. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, recevait de son côté les syndicats représentatifs. Qu'en est-il ressorti, Raphaël Ebenstein?
Du côté du ministère, on voulait pouvoir discuter franchement de tous les sujets, écouter ce que chacun attend d'une réforme de la SNCF, mais aucune annonce, puisque c'est Édouard Philippe qui détaillera le calendrier lundi prochain. Les syndicats sont visiblement restés sur leur faim, mais si la CGT a d'ores et déjà appelé à la grève le 22 mars, les autres organisations se veulent plus prudentes, à l'image de Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminot, qui se prononcera jeudi, et tant pis s'il n'y a pas d'unité.
L'unité, c'est jamais qu'un moyen d'action. C'est pas une fin en soi. Et l'intérêt pour nous, c'est l'intérêt du ferroviaire et l'intérêt des cheminots.
Un discours mesuré qui n'est pas celui de Sudrail, même si les adhérents ne se prononceront formellement que mercredi. Bruno Poncet, l'un de ses secrétaires fédéraux, mise déjà sur un mouvement sans doute massif au sein de la SNCF.
L'unité syndicale, on va la faire. Elle va se rejoindre avec nos collègues des AutoS dans la semaine, plusieurs fois. On va discuter, mais effectivement, il faut une plateforme unitaire, mais sur les mêmes revendications, afin d'avoir une réponse soudée. Le rapport de force ne se fera réellement que si on est soudé entre syndicats.
Reste qu'en privé, les syndicats de la SNCF ont quand même peu apprécié que ce soit Philippe Martinez en personne, le secrétaire général de la CGT, qui annonce lui-même la date de la grève des cheminots le 22 mars.
Une djihadiste française bientôt expulsée d'Irak. La justice irakienne vient de prononcer cette mesure contre Mélina Boujedir, jeune française arrêtée en juillet dernier à Mossoul, bastion du groupe État islamique. Elle a été condamnée pour entrée illégale en Irak, mais devrait prochainement être reconduite en France. La jeune femme de de 27 ans était partie en Syrie en 2015 avec son compagnon et leurs trois enfants. Une partie de la famille a depuis été rapatriée, Florence Turm.
Mélina Bouguedir avait été arrêtée par l'armée irakienne le 9 juillet dernier. Elle se cachait alors avec ses quatre enfants dans un bâtiment en ruine de Mossoul. Son compagnon, lui, aurait trouvé la mort dans les bombardements de la ville. Tous deux avaient quitté leur domicile de Nanterre en octobre 2015 pour la Syrie avec leurs trois premiers enfants qui, eux, ont été rapatriés en France en décembre dernier après plusieurs mois de batailles judiciaires. Aujourd'hui, la jeune femme s'est présentée à la cour pénale de Bagdad avec son plus jeune fils dans les bras, âgé de quelques mois seulement et né sur le territoire syrien. Une audience au cours de laquelle elle a été assistée par un avocat commis d'office. Elle a affirmé de ne pas avoir participé à des actes de violence et dit regretter ce qu'elle avait fait. La cour l'a condamnée à 7 mois de prison pour entrée illégale en Irak. Verdict que l'accusée a accueilli avec le sourire. D'abord parce que la peine couvre la détention préventive, ce qui signifie qu'elle est libérable immédiatement. Mais surtout parce que ce verdict tranche avec d'autres déjà prononcés par les mêmes autorités judiciaires irakiennes. Une djihadiste allemande et une ressortissante turque ont été récemment condamnées à la peine de mort pour avoir apporté leur soutien à Daesh et une dizaine d'autres à la prison à vie pour appartenance à l'organisation État islamique. Mélina Bouguedir devrait maintenant être transférée dans un centre de détention en Irak avant d'être expulsée vers la France. La France où elle est visée par un mandat de recherche et une information judiciaire ouverte en août 2016 pour association de malfaiteurs terroristes criminels escortée par des membre des forces spéciales françaises. Elle sera donc placée en garde à vue dès son arrivée à Paris.
Un dossier suivi par Florence Turm pour France Culture. À l'étranger, voilà un contrat qui tombe à point nommé pour Benjamin Netanyahou. Israël vient de signer un accord avec l'Égypte pour la fourniture de gaz naturel. Un contrat évalué à 15 milliards de dollars, soit environ 12 milliards d'euros. De quoi faire oublier, au moins pour un temps, les menaces judiciaires qui pèsent sur Benjamin Netanyahou. La semaine dernière, la police israélienne a recommandé la mise en examen du Premier ministre dans une affaire de pot de vin. Étienne Monin nous appelle de Jérusalem.
Pour le bureau du Premier ministre, ce contrat est une gigantesque victoire politique au moment où la justice se rapproche dangereusement de Benjamin Netanyahou. L'exploitation du gaz en Israël, au lieu d'être une success story, a été un champ miné qui a fragilisé Netanyahou pendant une longue période. Les gisements ont été découverts à la fin des années 2000. Ils sont à moins de 100 km de la côte. Ils sont militairement protégés. Ils renferment des centaines de milliards de mètres cubes de gaz qui ouvrent enfin les portes d'une autonomie énergétique pour Israël. Pour l'exploitation, le Premier ministre a monté un consortium israélo-américain qui a été vivement combattu dans la rue et devant la Cour suprême au nom de la loi antitrust. Il a fallu revoir le montage et le justifier par les retombées économiques à venir. Israël a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec la Jordanie. Elle a longtemps tremblé devant l'indécision des Égyptiens touchés aujourd'hui par des difficultés économiques. L'affaire est finalement conclue. Les deux pays ont signé un accord de paix en 1960. Ils coopèrent dans la guerre contre l'État islamique dans le Sinaï. C'est un accord historique pour les services du Premier ministre israélien qui rappelle que les réticences à l'époque étaient nombreuses.
Analyse signée d'Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Deux annonces ce soir où se lit mémoire et politique. Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet. C'est une annonce de l'Élysée. L'ex-académicienne et ancienne ministre y sera inhumée avec son mari. Elle est décédée à 89 ans le 30 juin dernier. On apprend aussi ce soir que Michel Déon sera bien inhumé à Paris. Après avoir refusé dans un premier temps, la mairie de Paris demande aux services municipaux de trouver une sépulture parisienne pour l'académicien. L'inhumation de cet écrivain fait polémique depuis une semaine. Une centaine d'écrivains et éditeurs avaient demandé dans une pétition que Michel Déon puisse bénéficier d'une sépulture parisienne. Ouvrir les bibliothèques le soir et le dimanche, c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Et le coup d'envoi de ce chantier sera donné demain au Mureau dans les Yvelines, une commune dont la bibliothèque est justement ouverte le dimanche. L'écrivain Éric Orsenna y présentera le résultat de son tour de France des lieux de lecture, une mission qui lui a été confiée par le président au mois de septembre. Et pour en parler, pour parler du rapport des Français aux bibliothèques, nous sommes en ligne avec Sylvie Robert, sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et auteure d'un rapport publié en 2015 sur l'extension des horaires d'ouverture. Bonsoir Sylvie Robert.
Bonsoir.
Alors la France compte actuellement 16 500 lieux de lecture. Or selon une étude du ministère de la Culture datant de 2016, 60% de la population ne va jamais à la bibliothèque. Comment expliquer cette désertion ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est c'est une désertion. D'abord, il faut se féliciter d'avoir autant de bibliothèques, de points lecture. Ça montre que notre territoire national est quand même maillé de ces équipements publics qui sont, pour moi, le premier équipement culturel de notre pays. Alors, il faut distinguer deux choses, à la fois le fait d'être abonné et puis le fait de fréquenter les bibliothèques. Et ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a une augmentation dans la fréquentation des bibliothèques, parce que c'est un équipement qui est d'accès libre. Vous pouvez venir dans une bibliothèque, vous pouvez y rester le temps que vous souhaitez, et ça, pour ça, c'est quand même extrêmement précieux. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que là où je vous rejoins, c'est que il faut absolument que on fasse progresser à la fois la fréquentation, mais aussi le fait de bénéficier de tous les services, de maximum, je dirais, des Français à ces équipements culturels qui sont aujourd'hui de premier plan.
Alors l'un des postulats du gouvernement, et ce qui était défendu par Emmanuel Macron, c'est l'idée d'augmenter l'amplitude horaire, ouvrir les bibliothèques plus tard le soir et ou le dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est le cœur du problème ?
Vous savez que j'ai commis un rapport en 2015, sur les horaires d'ouverture des bibliothèques, et je me suis aperçue que c'était et ça pouvait être un levier pour pouvoir, je dirais, développer, augmenter l'accès des bibliothèques, mais en aucun cas l'alpha et l'oméga de la solution pour faire en sorte que le maximum de nos concitoyens puissent y avoir accès. Et puis, je rajouterais que dans ce rapport, je disais, c'est bien d'ouvrir plus. Et aujourd'hui, je pense vraiment, sincèrement, qu'il faut ouvrir plus nos bibliothèques, parce que nous sommes une moyenne trop faible, mais il faut ouvrir mieux, c'est-à-dire que par rapport à des territoires, il y a des territoires où l'ouverture le dimanche, par exemple, ou le soir, peut s'avérer pertinent, mais il y a d'autres territoires où ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il faut avoir une vision extrêmement, décentralisatrice de la question pour convenir qu'il y a certains territoires qui vivent à des rythmes qui demandent à ce qu'on regarde si l'ouverture le dimanche, le soir, le midi ou autre a vraiment un sens. Mmh. Donc ouvrir plus, mais surtout ouvrir mieux.
Mmh. Encore faut-il avoir les moyens de cette ambition, parce que vous parliez des territoires, les bibliothèques municipales fonctionnent notamment grâce aux contrats aidés. Or, le gouvernement a choisi d'en réduire le nombre et de demander un effort financier considérable aux collectivités. Est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire ?
Oui, alors tout dépend des communes, de leur taille, de leur. Il y a des contrats aidés dans des bibliothèques et vous avez tout à fait raison. Et moi, j'avais alerté à l'époque le ministère pour dire que cet arrêt brutal des contrats aidés pouvait mettre en difficulté certaines bibliothèques qui fonctionnent peut-être parfois qu'avec un contrat aidé, vous voyez, et un professionnel ou des bénévoles, et mettre certaines bibliothèques dans des difficultés vraiment sérieuses. Mais il y a une autre piste, c'est le fait d'avoir augmenté ce qu'on appelle la dotation globale de décentralisation, qui permet aux élus d'avoir de l'investissement pour rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, mais qui peut aussi leur permettre d'avoir de l'argent en fonctionnement pour pouvoir engager en personnel des personnes à partir du moment dès lors qu'ils souhaitent ouvrir plus leur bibliothèque. Donc vous voyez, il y a quand même des dispositions législatives et notamment de la DGD qui peuvent leur faciliter la vie.
Au-delà des horaires, est-ce que c'est pas aussi une question, Sylvie Robert, de pratiques culturelles à l'heure des tablettes, des smartphones ? Pourquoi est-ce que les jeunes et les moins jeunes auraient envie d'aller à la bibliothèque ?
Il faut du coup considérer que la bibliothèque n'est peut-être pas obligatoirement l'équipement qu'il y a dans notre imaginaire un peu collectif, d'un lieu un peu fermé, où c'est difficile d'entrer, où on se tait quand on arrive, vous voyez, peut-être pas très adapté à des pratiques culturelles aujourd'hui. Je pense que ça peut en revanche, et il y a des expériences très intéressantes qui se font dans un certain nombre de territoires de notre pays, ça peut devenir un lieu de rencontre, un lieu d'échange justement entre des générations, même génération, où on peut d'ailleurs avoir des tablettes dans la bibliothèque, où il peut y avoir des jeux vidéo.
Déjà le cas ?
Mais bien sûr, c'est le cas dans beaucoup d'endroits, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un grand, prise de conscience collective, à la fois politique et aussi professionnelle et aussi citoyenne, que ces lieux-là, ce sont des lieux d'abord où il y en a beaucoup, Donc ça c'est important parce que il y a une accessibilité aujourd'hui assez forte de nos concitoyens par rapport à un point de lecture public ou d'une bibliothèque. Je crois que on est à 75%. C'est pas encore la totalité. Hein. On dit qu'il y a encore des zones blanches. Mais il faut vraiment qu'on casse un peu des codes pour dire qu'une bibliothèque peut être autre chose que ce à quoi finalement on imagine un lieu un peu fermé et que oui, des jeunes générations peuvent jouer à la PS, peuvent avoir des tablettes, même y trouver des tablettes. Et c'est bien aussi lorsque eh bien des professionnels sont là pour les accueillir, pour les guider et peut-être du coup après pour les amener au livre. Et je pense que là, c'est aussi des chemins un peu détournés mais qui me semblent absolument essentiels.
Merci Sylvie Robert. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et auteure d'un rapport sur les lieux de culture. On termine par quelques mots du temps. Demain, qui sera souvent pluvieux avec des neiges abondantes sur les Pyrénées. Il fera entre 4 et 8 degrés sur le quart nord-est, 8 à 13 sur la moitié ouest et les régions méditerranéennes.